ce soir, tu nous as permis de faire connaissance les uns avec les autres, sous ton regard, alors que tous les habitants du ciel pouvaient nous observer. Car c'est toi, ô Dieu, qui pouvais dire au prophète Samuel, « J'ai vu un homme selon mon cœur, et c'est lui que tu iras oindre pour roi sur mon peuple Israël, car Saül, je l'ai rejeté. » Tu observais tout ce qui se passait jusque dans les champs où se petit David gardait les troupeaux. Toute la famille rassemblée l'avait oublié, délaissé, mais toi tu le fis venir. Et c'est lui qui fut roi. Non pas parce qu'il était sans défaut, mais tu avais vu qu'il avait un cœur, qui saurait quand même te craindre, et qui dans ses fautes saurait se reconnaître pécheur, et pourrait dire, oui, j'ai péché. Non pas comme Saül, j'ai péché, mais honore-moi devant le peuple pour que personne ne le sache, mais j'ai péché, disait David. Et ce fut lu dans le temple. Et l'on put entendre cette voix dire, rends-moi la joie de ton salut. Ô Seigneur Jésus, nous voulons te demander que nous puissions nous retrouver un jour dans le ciel qui nous a observés ce soir, qui a entendu nos noms, et que nous puissions nous réjouir quand nous nous rencontrerons là-haut. Qu'il ne manque personne. Et c'est pourquoi encore, comme nous l'avons chanté, c'est tel que nous sommes, que nous venons à toi. Bénis cette soirée, bénis cette ouverture du camp, et que toutes les heures, toutes les minutes que nous allons passer ici, soient remplies de ta présence, car nous l'avons exprimée. C'est d'elle et d'elle seule que nous avons soif ce soir. Amen.
Ah oui, sauf qu'on est et Roméo Grenier, plusieurs le connaissent.
Le profond de mon cœur est que ce camp Mahanaïm 1995 soit pour tous, grands et petits, un rendez-vous d'amour. Je pense que vous l'avez déjà pressenti dans ce que nous avons pu dire. Que ce camp qui, pour moi, est, me semble être vraiment le dernier, ici, eh bien, que ce camp soit un rendez-vous d'amour. Et je voudrais vous demander, mais qu'êtes-vous venu chercher dans ce lieu? Vous venez de différents endroits. Qu'êtes-vous venu chercher dans ce lieu? Si tous nous pouvions dire ce soir, c'est toi, Jésus, que nous voudrions rencontrer ici. Mais pas le Jésus de votre imagination, mais le vrai Jésus. L'unique Jésus, ce Fils unique qu'on a vu tout à l'heure dans le sein du Père et qui seul peut nous révéler ce qu'est Dieu. Parce qu'il n'y a pas de révélation complète de Dieu en dehors de Jésus. Vous ne connaîtrez jamais Dieu d'une façon intime et personnelle, le Dieu qui habite la lumière inaccessible, que personne n'a pu voir, vous ne le connaîtrez jamais sans Jésus. C'est Jésus seul qui révèle Dieu et qui révèle le Père. Le Fils unique, dit l'Écriture, Jean chapitre 1, le Fils unique qui est dans le sein du Père, lui nous l'a fait connaître. Et connaître le Fils unique, c'est vraiment avoir la vie éternelle. Parce que l'Écriture nous dit que la vie éternelle, elle est dans ce Fils, et que celui qui a le Fils, il a la vie. Celui qui n'a pas le Fils, il n'a pas la vie. Vous pouvez avoir une religion, vous pouvez avoir des connaissances, mais vous n'avez pas la vie. Et le désir profond de nos cœurs pour ce camp, c'est que personne ne quitte ce lieu sans avoir en lui la vie. Et vous savez, la vie, ce n'est pas quelque chose. Qu'est-ce que c'est que la vie? C'est quelqu'un. C'est une personne. Et quand on est habité par une personne, que quelqu'un est en nous, pas seulement à certaines heures, mais 24 heures sur 24 heures, à tous les moments, bien notre vie, elle est transformée. Il y a des choses qui ne se disent plus, il y a des choses qui ne se font plus, parce que c'est Jésus qui est en vous, c'est lui qui regarde par vos yeux, qui écoute par vos oreilles, qui parle par votre langue, qui aime par votre cœur, qui sert par vos mains, qui se déplace par vos pieds, de sorte que vous n'irez pas n'importe où, vous ne ferez pas n'importe quoi, vous ne direz pas n'importe quelle stupidité, mais vous penserez toujours, je suis habité par Jésus. Et c'est pas seulement Jésus qui vous habite. Nous sommes des êtres qui ont été formés par Dieu en trois parties. Nous avons un esprit, nous avons une âme, puis nous avons un corps. Et comme Dieu lui-même, révélé dans sa parole, est une trinité, eh bien, il veut habiter en nous entièrement. Vous n'aurez pas le Père céleste très loin au fond du ciel, vous aurez Dieu qui est esprit, vous l'aurez où? Dans votre esprit. Il contrôlera votre esprit. Vous aurez le Seigneur, le Fils, dans votre âme. Notre âme, c'est notre personnalité. Et vous savez, quand on a compris cela, que notre âme, c'est notre personnalité. Est-ce que vous y tenez beaucoup à votre personnalité? Eh bien, je vous dis, tant que vous tenez à votre personnalité, vous ferez des expériences décevantes. Et vous serez bien souvent des gens impossibles. Parce que c'est toujours le heurt des personnalités qui fait que les gens ne s'aiment pas et se bagarrent. Qu'est-ce que nous apprend l'Écriture? L'âme, c'est notre moi. Alors, moi, je suis comme cela, puis j'ai hérité cela de mon père, de ma mère, ou de ma grand-mère, ou de mon arrière-grand-père. Alors, on a hérité ou les qualités ou les défauts. Ce n'est pas vrai. Quand on est au Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé dans notre vie charnelle? On est mort. Et non seulement mort, mais enterré. Si vous avez demandé même le baptême pour illustrer ce qui s'était passé, on vous a plongé dans l'eau, vous avez disparu. De sorte que l'Écriture nous dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Ce
n'est plus moi, c'est Christ qui vit en moi. Et ce que je vis dans la chair, maintenant, je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Donc, toutes nos pensées se soumettent à la direction de notre Père céleste, qui est dans notre esprit, qui est maître de notre esprit, qui éclaire notre esprit, et qui domine notre âme. Ce n'est plus moi, c'est Christ qui vit en moi. Et c'est le caractère du Christ qui va commencer à se manifester en vous. Et c'est ça que le monde va reconnaître. Ils ne sont plus les mêmes. Une conversion, c'est vraiment un changement qui est opéré en vous. Et puis, alors, on a un corps, hein, et dans notre corps, qu'est-ce qui habite notre corps? Ce sont nos sens. Nous avons dans notre corps les cinq sens. Et habituellement, qu'est-ce qui domine chez les hommes? Ce sont les sens. C'est les sens qui dominent les sens. Alors, on regarde et on convoite. Le Seigneur nous a montré que nous n'avons pas à convoiter. Mais si je garde ma nature, je convoite. C'est vrai. Si je garde ma nature, je ne peux pas faire autrement que convoiter. Je n'ai pas besoin de commettre un acte, mais le simple fait de convoiter, c'est déjà le péché. Puis quand on nous dit, mais on peut tout entendre. Est-ce que Jésus écoutait n'importe quoi? Ou se laissait influencer par ce qu'il entendait? Il était à l'écoute de qui, Jésus? De son Père. Il disait que ce qu'il écoutait, c'était ce que son Père lui disait. Alors, il était rempli des paroles du Père à un tel point qu'il disait, mais ce que je vous dis, c'est pas moi qui vous le dis. C'est ce que j'ai entendu de mon Père. Et je vous apporte les paroles de mon Père. Et dans ce monde, mes amis, c'est de cela que le monde a besoin, d'hommes et de femmes qui entendent la voix du Père. Pourquoi en 1995, vous ne seriez pas de ceux et de celles, petits ou grands, qui entendent vraiment la voix du Père? Mais si vous n'écoutez que ce qui se dit à la radio, si vous écoutez seulement ce qui se dit dans le monde, vous ne pouvez pas être rempli des paroles du Père. Alors on ne vous entend pas parler des choses du Père. Alors vous ne serez pas capable d'aider ceux qui sont dans la détresse. Ah, mes amis, nous ne serons plus dominés par nos sens, nous écouterons comme Jésus écoutait son Père, puis nous aurons quelque chose à dire qui ne vient pas de nous, comme Jésus disait, ma doctrine n'est pas la mienne, je vous dis ce que j'ai entendu par mon Père. Et puis César, il disait, c'est pas les miens, il faisait des guérisons, mais il ne disait pas, moi je suis un guérisseur, comme on l'entend maintenant, j'ai le don de guérison, nous vous invitons à des réunions où nous aurons un grand prédicateur qui a le don de guérison, etc. Moi je dis à ces gens-là, qu'on les conduise tout de suite à l'hôpital, et que là, ils fassent leur guérison. Mais dire, nous vous invitons dans des réunions, puis vous viendrez, puis nous guérissons toutes les maladies. C'est pas vrai. C'est une espèce de propagande pour remplir une salle. Nous ne voulons pas faire du don de guérison que nous croyons. Nous ne voulons pas faire du don de guérison une propagande religieuse. Les gens en ont assez de toutes nos propagandes religieuses. Ils voudraient voir des actes. Alors, ne nous vantons pas. C'est très facile. On m'a dit, mais nous ressuscitons les morts du Rwanda. les enfants morts au Rwanda, je ne l'ai pas vu. Ce jour même où cet homme prétendait qu'il ressuscitait les morts du Rwanda, on voyait à la télévision que je n'ai pas, mais j'étais de passage quelque part, je voyais tous ces enfants massacrés. Alors qu'on vienne pas nous dire ça. Enfin, c'est très facile de s'auréoler, de prétendre qu'on a toutes sortes de dons. Et puis, je me souviendrai toujours d'une grande pancarte à Montréal, ici même, nous guérissons les gens du cancer. Puis quelque temps après, dans cette même église, je suis entré et il y avait le cercueil du guérisseur, mort d'un cancer. Non mais c'est pas de la blague, je l'ai vécu. Je connaissais cet homme. Alors il y a affaire avec Jésus. Et vous ne délirez pas. Et vous verrez que votre vie sera transformée. Et comme nous vous le disions, ce qui est derrière, hein, laissez-le. Laissez-le, oubliez-le. Oublions ce qui est derrière. Tendons avec effort vers ce qui est devant. Pour courir, droit au but. Tout votre bonheur est devant vous. Nous l'avons dit et nous le répétons. Mais laissez ce qui est derrière. Le sang du Christ couvre ce qui est derrière. Je ne me nourris pas de ce qui est derrière parce que ce qui est derrière, je ne le change pas, nous ne le changeons pas, mais nous laissons couverts par le sang du Christ. Et alors, nous allons de l'avant. Il ne disait rien qu'il n'avait entendu dire par le Père. Il ne faisait rien qu'il n'avait vu faire par le Père. Et alors, s'il habite en nous, il a les mêmes coutumes. Et c'est lui qui inspirera nos paroles et nos actes et qui nous donnera des convictions et qui nous montrera dans la vie quotidienne ce qu'est sa volonté. Parce que voyez-vous, si vous ne faites pas sa volonté dans le détail de votre vie, ne pensez pas que quand il y aura des grandes décisions à prendre, vous serez dirigé. Vous devez pouvoir compter sur le Seigneur pour les moindres détails de votre vie. Lui s'intéresse aux détails. Parce que ce qui nous empoisonne, nous, c'est justement dans le quotidien, c'est ces détails. Il y a un tas de gens qui sont empoisonnés. Et ils n'ont pas une vie de louange. Parce qu'ils sont toujours arrêtés par le détail, comme si Dieu ne saurait pas s'en occuper. Tout ce que Dieu demande, c'est de vous posséder pleinement. Dieu dans votre esprit, le Père dans votre esprit, le Seigneur dans votre âme, c'est plus vous qui vivrez, c'est le Christ qui vivra en vous. Et alors, vous n'aurez plus ces heures de personnalité. Je me souviendrai toujours d'il y a peut-être 40 ans, on faisait de grandes conférences spirituelles, c'était presque tous des conducteurs spirituels, et j'en entends un qui dit à un autre, on venait de parler pourtant de choses très profondes, « Monsieur, vous m'avez blessé à mort. » Blessé à mort, je me suis dit, voilà un prédicateur blessé à mort, il n'est pas mort. Si on est blessé à mort, c'est qu'on n'est pas mort. Comprenez-vous? Mais ça m'a vraiment frappé. Il avait bien parlé, puis après il disait qu'il était blessé à mort. On peut bien parler, on peut faire de beaux discours, mais il faut vivre cette mort. Ça devient quelque chose de quotidien, portant toujours partout dans le corps la mort de Jésus. Parce que Jésus est mort. Et
ce que nous avons signifié dans le baptême, c'est que nous acceptions nous aussi de mourir en lui, et que comme lui a été enseveli, nous sommes ensevelis en lui. Et alors, comment est-ce que lui a vécu? Ressuscité par la vie du Père. Et nous vivrons de cette vie du Père, et nous aurons les ressources du Père. Si vous le voulez, ce soir, déjà, oubliez ce que vous êtes et croyez ce que le Christ est. Et comprenez que ce que le Christ est, c'est vraiment votre vie. Est-ce que vous croyez ça? C'est pas que vous le sentiez, mais c'est ça qui est vrai. Oubliez ce que vous êtes. Et pensez à ce que Dieu est. Quelle idée est-ce que vous vous faites de Dieu? Qu'est-ce qu'il est Dieu? On a entendu les trois mots. Dieu est amour, hein? Alors, est-ce que vous croyez? Dieu est amour. Et il y a tout en lui. Et vous avez la plénitude en lui. Dieu est amour. Oubliez ce que vous êtes et reposez-vous sur Dieu. Dieu vous aime. Ça ne sert à rien de chanter tel que je suis, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Il faut que ce soit vrai. On est venu à lui, puis maintenant on croit que notre vie, c'est pas celle que l'on voit en nous, nous-mêmes. Parce que le Saint-Esprit, l'œuvre du Saint-Esprit, quand on a vraiment le Saint-Esprit, qu'est-ce qui nous montre le Saint-Esprit? Toute notre misère. Quand le Saint-Esprit est à l'œuvre, c'est pas pour vous mettre sur un piédestal, c'est pour vous montrer que vous n'êtes rien sans l'amour, que vous ne pouvez rien faire et que votre nature est perdue. Voilà, l'œuvre du Saint-Esprit en nous, c'est de nous montrer notre misère. C'est pas de nous glorifier. Et grâce à l'œuvre du Saint-Esprit, qui me montre ma misère et qui me fait dire, oh comme je suis heureux d'avoir pu renoncer à moi-même. Qu'est-ce que Jésus demandait? Qu'est-ce que l'évangile? Renonce à toi. Renonce à toi. Oh non mais, mon moi, je l'aime tellement. Je suis encore tellement bien. Non! On a la haine de sa propre vie. Ce sont des mots que vous trouvez dans l'écriture, ça. Il faut arriver à haïr sa propre vie. Quand on se connaît un peu dans la lumière du Seigneur, on hait sa vie. Sans ça, vous ne comprenez rien à l'écriture. Mais comment est-ce que Jésus peut dire qu'il faut haïr sa vie? Et oui, mais quand on se connaît dans la lumière du Seigneur, on hait sa vie. Et alors, comment peut naître cet amour en nous? Comment pouvons-nous être vraiment des gens pleins d'amour? Eh bien, c'est en voyant combien le Seigneur nous a aimés. Tout ce que nous avons de bon vient de lui. En moi, je n'ai rien. Alors, il n'y a plus de gloire pour moi. On ne se glorifie plus de quoi que ce soit. Mais on donne toute la gloire au Seigneur. Et c'est ça, l'œuvre du Saint-Esprit, là où le Saint-Esprit agit, opère, il donne à la conscience cette certitude que Dieu est vrai. Il nous a dit la vérité dans sa parole. L'homme est incurable, désespérément malin. Est-ce que vous avez déjà eu cette révélation que vous êtes désespérément malin? Est-ce que vous avez aussi cette conviction, même pour vos enfants, dont on a fait si souvent des idoles? Ils sont comme nous. Mais il faut comprendre cela. Mais on ne va pas se désespérer, parce que nous avons un Rédempteur, nous avons un Sauveur. Mais on ne va pas se désespérer, parce que nous avons un Rédempteur, nous avons un Sauveur. Alors, mes amis, ce n'est plus vous qui vivrez, c'est Christ qui vivra en vous. Ce n'est plus vos sens qui domineront. Vous ne voudrez plus goûter à n'importe quoi,
il y a des choses qu'elle ne voudrait pas. Parce que ça vous mettrait du mal. Et vous serez guidé, vous aurez une puissance en vous qui vous guide, qui vous conduit. Le Saint-Esprit, il ramène toujours nos yeux sur Jésus. Il nous détourne de nous-mêmes. Il nous fait dire, comme je suis heureux d'être mort, eh bien, que je reste dans la mort pour que la vie de Jésus puisse se manifester. Portant toujours partout dans le corps, là où la vie charnelle voudrait se manifester, on porte la mort, afin aussi que la vie de Jésus soit manifestée dans notre chair mortelle. Alors il y a une transformation. Alors je vous disais que ce camp devait être un rendez-vous d'amour, que j'espérais que vous êtes venu chercher Jésus, pas le Jésus de votre imagination, mais le Jésus de la révélation, qui ayant accompli son œuvre parfaite, nous fait dire qu'il est notre sainteté, notre justice, notre rédemption. Il est tout. Ce que nous ne sommes pas, c'est lui qu'il est, mais ma vie, c'est lui. C'est pas ce qu'il disait, Christ est ma vie. En dehors de Jésus, nous n'avons pas de vie. Alors, je vous ai dit, et nous allons terminer, que si vous avez dit, Seigneur, je viens pour te rencontrer, vous entendrez Jésus vous dire, je suis là. Ouvre tes yeux, tu me verras, et si tu le veux, je serai pour toi le fiancé de ton âme. Et tu seras pour moi, parlant de notre âme, ma fiancée bien-aimée. Et c'est le thème de ce camp, fiancée à Christ. Et vous le savez, je vous cite encore ce verset qui est mentionné ici, c'est dans le chapitre 2, dans la deuxième épître, aux Corinthiens, au chapitre 11e, Paul dit au verset 2, « Je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter au Christ comme une vierge pure. » Votre vie maintenant, c'est la vie d'une fiancée. Mais fiancée à qui? Au Christ. Alors nous devons le connaître. Et voyez-vous, je ne sais pas ce que vous connaissez de votre Bible, mais il y a dans l'Écriture, Ancien et Nouveau Testament, plus de 30 fois le mot fiancé ou fiançaille. Je vous en cite quelques exemples. D'abord, dans le Cantique des Cantiques, au chapitre 3e, le verset 11e, il est parlé des fiançailles. Vous voyez le roi Salomon, avec la couronne dont sa mère l'a couronné, le jour de ses fiançailles. Et qu'est-ce que c'est le jour des fiançailles? Le jour de la joie de son cœur. Le jour de la joie de son cœur. Le jour où vous avez dit oui au Seigneur. C'est le jour de la joie de son cœur. Il y a eu de la joie dans le ciel pour un pécheur qui se repent. Et le jour où vous acceptez Jésus comme le fiancé de votre âme, maintenant, vous êtes pris. Le monde ne peut plus, et oui, il est là, il essayera de vous tenter, mais vous avez dit oui au Seigneur, c'est non pour les convoitises du monde.
Et alors, dans le Cantique des Cantiques, on trouve 7 fois le mot fiancé. Au chapitre 4, viens avec moi du Liban, ma fiancée. Quand on a accepté d'être fiancé avec Jésus, eh bien, on l'entend nous dire, viens avec moi. Le Seigneur est toujours avec nous et il désire que nous soyons dans sa compagnie, viens avec moi. Et quelle vie d'être avec Jésus, de marcher avec Jésus. Puis au chapitre 4, verset 8, au chapitre 4, verset 9, tu m'as ravi le cœur, ma sœur, ma fiancée. Et vous voyez, l'union n'est pas totale. C'est toujours ma sœur, ma fiancée. Le mariage n'a pas encore eu lieu. Le mariage, il est devant nous. Et nous avons à nous préparer pour les noces de l'agneau. Mais la conversion, c'est l'essentiel. Et puis maintenant, nous allons vers le mariage. Mais le mariage n'aura lieu qu'au retour du Seigneur. Alors, nous célébrerons les noces de l'agneau. Vous êtes invités aux noces de l'agneau, mais vous êtes fiancés. Et vous trouverez 4 fois. C'est toujours ma sœur, ma fiancée. Que de charme dans tes amours, ma sœur, ma fiancée. Verset 10. Verset 11. Tes lèvres distillent le miel, ma fiancée. Puis verset 12. Tu es un jardin fermé, un jardin clos, ma sœur, ma fiancée. Une source fermée, une fontaine scellée. Puis au chapitre 5, verset 1. J'entre dans mon jardin, ma sœur, ma fiancée. Puis les autres noms que vous trouvez dans le Cantique des Cantiques montrent bien qu'une fiancée n'a pas de rapport encore avec son fiancé dans le sens humain. Les autres noms, c'est mon ami, ma colombe, ma parfaite, mon unique. Le Seigneur nous manque. Puis, on pourrait parler du livre de l'Exode au chapitre 22, verset 16, au sujet d'une vierge qui n'est pas fiancée. Il y a aussi dans le Lévitique au chapitre 19, au verset 15, une esclave qui est fiancée à un autre homme. Et 6 fois dans le Deutéronome, vous trouvez cette expression de la fiancée. Mais justement, dans les fiançailles, il n'y a pas de rapport sexuel. C'est un temps de préparation. Oui, d'aller vers le mariage sur le plan humain, mais les fiançailles, c'est pas vivre à côté. Et maintenant, mes amis, vivre à côté, c'est admis dans les églises. Quand je suis rentré de cette catastrophe, il y a 15 jours, on m'a donné dans Air France le Figaro. Le concubinage n'est plus un péché. C'est tout à fait normal. L'Église est priée de vivre avec son temps. Et puis, il est impossible à un homme d'être fidèle à sa femme. Et ce sont des théologiens qui disent ça. Parce que Dieu aurait mis dans nos gènes l'adultère. Alors, tout est permis, et il faut retrancher le mot « vivre dans le péché ». Quand, au paradis, c'est un lieu, un au-delà très improbable. La virginité de Marie, c'est une fabulation des évangélistes. L'enfer, c'est un mythe pavé des pires inventions. Dieu ne serait pas aussi surnaturel qu'il le fait dire par ses saints. L'homme et la femme ne peuvent pas triompher des tentations. Qu'est-ce que Jésus a fait, lui, comme homme, quand il est venu sur la terre?
Est-ce qu'il a succombé aux tentations? Adam, notre père céleste, oui, a succombé aux tentations, Ève aussi. Mais quand Dieu a voulu sauver sa créature, qui est-ce qu'il a envoyé? Son fils unique. Mais ce fils unique, il n'est plus connu même dans l'Église. Et c'est cela que je voudrais, si c'est mon dernier camp, que vous retrouviez le fils unique qui est dans le sein du Père et qui a toujours la même puissance. Parce que vous voyez où va le monde? Pourquoi est-ce qu'il y a tant de suicides? Parmi les jeunes, vous voyez ce qu'il dit ici. La notion classique fondée sur la monogamie et l'indissolubilité du mariage, scellée par le culte du foyer des ancêtres, est périmée, assure ces traits-là. Aujourd'hui, la cohabitation préconjugale, la constitution de couples homosexuels, l'existence de foyers monoparentaux sont des expressions familiales à part entière, insiste-t-il. En conséquence, l'Église doit retrancher les expressions « vivre dans le péché » pour désigner des relations de concubins. On ne pêche pas quand on vit en union libre, assurent les deux évêques. On cohabite, et cette cohabitation peut être considérée comme la recherche d'une relation satisfaisante. Mais cette recherche d'une relation satisfaisante, la Bible appelle ça quoi? Les fiançailles. C'est pas la cohabitation, c'est les fiançailles. On ne se marie pas. Là, on a un coup de foudre, puis j'ai toutes ces filles, ou j'ai tous ces garçons. Mais, on dit au Seigneur, est-ce que vraiment c'est ta volonté? Alors on se soumet d'abord aux directions du Seigneur, et puis on se prépare en vue du mariage. Et l'on vit dans la chasteté. Et cette chasteté, vous direz que je suis vieux jeu, eh bien, c'est une preuve que l'on donne à sa fiancée que l'on lui sera fidèle dans le mariage. Même quand elle sera malade, même quand il y aura des difficultés. Ce sont des vérités auxquelles on doit revenir. Et je vous donnerai des exemples pris dans Jérémie, que quand on enlève sa ceinture, on va voir tout à l'heure qu'on peut enlever sa ceinture, qu'est-ce qu'il arrive à la ceinture? Quand on n'a plus sa ceinture, puisqu'on est, on est allé l'enterrer, quand on va la rechercher, elle n'est plus bonne à rien. Vous avez cet exemple merveilleux dans Jérémie. Parce que le Seigneur nous donne des exemples. Eh bien, dans le Cantique des Cantiques, ben, il est parlé, justement, d'avoir enlevé sa ceinture. Mais si vous, je termine avec encore quelques mots là-dessus, sur les fiancés, dans Ésaïe, au chapitre 49, verset 28, il y a une image de la fiancée. Quarante-neuf, verset dix-huit. Porte tes yeux alentour et regarde. Tous s'assemblent, ils viennent vers toi. Je suis vivant, dit le Seigneur. Tu les revêtiras tous comme une parure
tu t'en peindras comme une fiancée. Puis dans 61, verset 10 aussi, je me réjouirai en l'Éternel, mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu, car il m'a revêtu des vêtements du salut, il m'a couvert du manteau de la délivrance, comme le fiancé s'orne d'un diadème, comme la fiancée se pare de ses joyaux, car comme la terre fait éclore son germe, et comme un jardin fait pousser ses semences, ainsi le Seigneur l'Éternel fera germer le salut et la louange dans la présence de toutes les nations. C'est au chapitre 62, verset 5. Comme un jeune homme s'unit à une vierge, ainsi tes fils s'uniront à toi, et comme la fiancée fait la joie de son fiancé, ainsi tu feras la joie de ton Dieu. Les fiançailles, donc ce temps que nous avons en attendant que le Seigneur vienne, c'est le temps où nous pouvons faire quoi? La joie de notre Dieu. Et la chrétienté, qu'est-ce qu'elle fait aujourd'hui? La tristesse de Dieu. Dieu dit, tu leur diras que mes yeux pleurent jour et nuit à cause de ce qu'ils font. Parce que le jugement vient, mais Dieu ne se plaît pas à juger. Il dit, mais mes yeux pleurent, tu leur diras de ma part que je suis en train de pleurer parce que le monde va au-devant d'un jugement qui sera aussi terrible que celui qui a eu lieu au déluge, que celui qui a eu lieu à Sodome. Et Jésus nous a dit, quand je reviendrai, ce sera un temps comme Sodome et Gomorre, ce sera un temps comme Noé, comme au temps de Noé. Oh, la vie continuait, on mange, on boit, on se marie, on donne en mariage, on bâtit, on achète, on vend, et tout à coup, le jugement vient. Et voyez-vous, nous sommes proches de ce moment-là. J'aurai l'occasion de vous parler encore dans Jérémie. Au chapitre 2, Dieu dit, je me souviens de toi, au verset 2, de ton amour, lorsque tu étais jeune, de ton affection, lorsque tu étais fiancé, quand tu me suivais dans le désert, je me souviens de toi, hein, comme c'était beau, quand tu étais comme ma fiancée. Puis après, il dit, mais qu'est-ce que je t'ai fait pour que tu m'aies abandonné? Ils m'ont abandonné, moi, la source des eaux vives, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Et puis, au chapitre 2, toujours verset 32, la jeune fille oublie-t-elle ses ornements, la fiancée sa ceinture, je reparle de la ceinture, mon peuple m'a oublié depuis des jours sans nom. Alors, on écrit toute espèce de beaux cantiques qu'on aime à chanter 36 fois les mêmes refrains. On s'exalte, on part, comme je le dis quelquefois. On part en chantant, en faisant beaucoup de bruit. On part comme une fusée. Puis, comme elle ne se pose pas sur son orbite, on retombe sans parachute. Tu n'es des misérables. Au point de vue du témoignage chrétien, nous sommes devenus des misérables, et je le dis pour moi-même. Je me sens concerné. Et voyez-vous, ce temps des fiançailles dans Jérémie, c'est un temps de chant, un temps de louange, un temps vraiment d'amour, qui précède l'union. Mais maintenant, non. Je me souviens de la femme d'un docteur de Paris qui est bien connu, qui me disait, mais ma fille, je ne peux pas même la laisser sortir avec les gens du GBE. La première chose qu'un garçon lui demande, c'est de coucher le même soir avec. Vous croyez que c'est ça l'amour?
Non, c'est pas. Ce n'est pas cela. Vous pouvez faire autrement. Vous pouvez penser autrement. Mais ce que j'ai à vous dire dans ce temps, c'est autre chose, et surtout, ce que le Seigneur a à vous dire et à me dire à moi. Nous allons maintenant lui demander qu'il prolonge lui-même cette rencontre. Seigneur Jésus, ce que nous voyons, c'est que dans ce monde, des chrétiens, on prêche un autre Jésus, un autre évangile, un autre esprit. On parle beaucoup du Saint-Esprit, mais ce n'est pas l'esprit qui met Jésus sur le trône, mais qui met toujours l'homme en avant, avec ses dons, avec sa puissance. Or, nous savons bien que hors de toi, nous ne pouvons rien faire. Hors de toi, nous ne sommes rien, car tu es l'amour. Et si nous n'avons pas l'amour, nous ne sommes rien. Alors, parle à nos cœurs. Transforme-nous par ta parole. Et que ce camp ait un prolongement dans toutes nos vies. Et que nous puissions repartir en ayant saisi ce qu'est vraiment la vie. Pour la gloire du Père au nom du Fils, et par la puissance du Saint-Esprit, protège ce camp. Garde-le, garde les enfants. Et bénis-nous de ta bénédiction, la seule qui enrichit et à laquelle tu n'ajoutes aucun chagrin. Et prépare-nous pour le culte de demain, afin que nous entrions vraiment dans la louange. Amen. Amen.